Dialogue entre Congolais à saison avec Alain Rung à la présentation.
Bonsoir, province du Nord et Sud qui vous débute dès ce mois de janvier de l'opération Amanileo qui remplace Kimia 2 dans la phase SLR et des groupes armés réfractaires à l'intégration. Quelle est la situation sécuritaire dans les deux Kivus? Quel pourrait être l'apport de l'opération Amanileo dans la protection des civils? Nos invités sont Julien Paloufou, gouverneur de la province du Nord Kivu, en ligne. Bonsoir, monsieur le gouverneur.
Oui, bonsoir.
Mohamed Boulé, député national NLC, ancien vice-ministre de la Défense et général à la retraite. Il arrive dans quelques secondes, il sera avec nous. Kevin Kennedy, directeur de l'information publique de la MONUC, dans ce studio. Bonsoir, Kevin.
Et bonsoir.
Le quatrième invité, évidemment, c'est vous, chers auditeurs, et vous êtes très nombreux à réagir. Maître Henri Chaguiro de Goma en Nord Kivu, il est important que l'on dresse tout d'abord un bilan détaillé des deux opérations Kimia, c'est-à-dire leurs forces et faiblesses, ensuite fixer l'opinion sur les objectifs essentiels de l'opération Amanileo. Dany Kilembi, étudiant à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa, je me demande s'il faut toujours multiplier des opérations pour la paix dans les Kivu, alors que selon le porte-parole de l'opération Kimia 2, les objectifs de cette dernière ont été atteints. Si tel est le cas, à quoi servirait Amanileo, n'est-ce pas un moyen de distraire l'opinion? Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Les opérations Kimia 2 sont terminées au nord et au sud Kivu. Elles cèdent la place à l'opération Amanileo qui démarre dès ce mois de janvier 2010 et pour 3 mois. Annonce faite le jeudi 31 décembre dernier à Goma par le commandant des opérations Kimia 2 à travers un communiqué de presse. Kimia 2 se termine après avoir atteint ses objectifs, a déclaré son porte-parole le major Ekenge. Selon lui, près de 5000 combattants SLR ont été neutralisés par les FARDC à ce jour, avec l'appui logistique de la MONUC, soit 75% de leurs effectifs présumés dans les deux provinces du Kivu. Amanileo s'occupera du reste. Jules Ngalawamona pour les détails.
Les objectifs de Amanileo, qui signifient la paix aujourd'hui et tout de suite en Swahili, visent la consolidation de la traque des FDLR en vue de l'éradication de ces phénomènes par des actions plus pointues menées conjointement avec des unités colocalisées et FARDC MONUC sur le terrain, indique le communiqué officiel. Tout en mettant l'effort principal sur le respect des droits humains, ajoute pour sa part le major Ekenge, porte-parole des opérations. Quant au bilan de Kimia 2, 10 mois après son lancement au nord et au sud de Kivu, le major Ekenge parle de réussite. Au regard des résultats remarquables obtenus, tous les sanctuaires FDLR démantelés, leur commandement et leurs moyens de communication désarticulés, leurs combattants et dirigeants politico-militaires chassés de toutes les zones qu'ils contrôlaient et dont ils tiraient des revenus au nord et au sud Kivu. Et pour les chiffres, 4601 FDLR neutralisés, soit 75% des 6000 combattants estimés vivant dans les deux provinces du Kivu au début des opérations. Goma, Jules Ngala, Radio Okapi.
Julien Paloukou, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Avant d'aborder l'opération Amanileo, quelle est la situation sécuritaire dans votre province à ce jour?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par vous adresser mes voeux de bonne santé, parce que la première fois que je passe sur Radio Capi depuis des
années,
ainsi qu'à tous vos auditeurs. Par rapport à votre question, je crois qu'il est important de souligner que nous sommes en 2010 et que par rapport aux années 2007, 2008 et 2009, il y a des avancées significatives, surtout que nous avions autour de 2 millions de déplacés dans toute la province, et aujourd'hui, nous ne comptons que quelques centaines de milliers de déplacés, ce qui démontre suffisamment que la plupart des déplacés sont rentrés chez eux, et s'ils sont rentrés, c'est à la suite de l'amélioration des conditions de vie dans les zones de retour. Donc actuellement, il ne reste que des poches résiduelles de quelques FDLR, mais également de quelques groupes réfractaires parmi les groupes nationaux qui sont localisés ça et là à travers la province. Mais globalement, nous pouvons nous réjouir du fait que, grâce aux efforts du président de la République, de toute l'année, avec l'appui de la MONUC, nous pouvons circuler dans toute la province sans beaucoup de difficultés, sauf, comme je l'ai dit tantôt, quelques poches qui ne manquent jamais dans dans un territoire post-conflit où on ne peut pas estimer éradiquer à 100% les inciviques qui ont pris les armes comme étant leur objectif principal.
Merci, Monsieur le Gouverneur. Kevin Kennedy, vous êtes directeur de l'information publique de la MONU. C'est vrai, pour le gouverneur Julien Paluku, il y a des avancées significatives hein, en ce qui concerne la situation sécuritaire au Nord Kivu. Mais d'après nos sources au Sud Kivu, la sécurité n'est pas encore totalement de mise. Hein.
Bon, c'est-à-dire qu'il y a de l'insécurité dans certaines zones, c'est clair. On a eu pas mal de succès au niveau du Nord Kivu, comme l'a dit le gouverneur Paluku. Et au Sud Kivu, il y a également eu en fait des succès à désorganiser et à disperser des éléments SDLR. Mais c'est vrai qu'il y a toujours du travail à faire, surtout dans le Sud-Sud.
Honorable Mohamed Boulé, vous êtes député national MLC, ancien vice-ministre de la Défense et général à la retraite. Bonsoir, parce que nous n'avons pas eu l'occasion de nous saluer en début d'émission.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Alors, votre appréciation de la situation sécuritaire dans les deux Kivu à ce jour?
L'appréciation de la situation sécuritaire, je serais très mal à l'aise pour le faire. Je veux le faire parce que, d'abord, pour qu'on parle de toutes ces opérations, nous rappelons qu'il y a 719 jours, lorsqu'a eu lieu à Goma la conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les provinces du Nord et du Kivu. Et en ce moment-là, je pense qu'il y a eu signature d'un engagement formel de la part de certains acteurs, 9 pour le Nord Kivu et 13 pour le Sud Kivu. Et ces documents, je l'ai par devant moi ici, parlaient en fond commun, il y avait 3 articles, il y avait le cessez-le-feu, les désengagements des troupes, des groupes armés, j'aime appeler les groupes armés, principes humanitaires, respect des droits de l'homme, mesures de garanties politiques et juridiques. Est-ce que si nous devons évaluer, commençons d'abord par là, pour savoir est-ce que de cet engagement-là qu'a pris certains acteurs, est-ce qu'il y a eu respect de la parole donnée? Moi, je dirais non. Et on est arrivé, parce que les choses ne s'arrangeaient pas, à monter des opérations militaires. Ces opérations, vous avez parlé ici de Kimia 1 et Kimia 2, et Kimia 2 a pris quelques jours comme 10 mois. On n'est pas encore arrivé à la fin, parce que, qu'on parle des résiduels, notre problème pour la République démocratique du Congo, que je sache, il faudrait une paix totale, pour que chaque citoyen se retrouve chez lui, puisse vaquer à ses occupations, au nord, sud Kivu, et dans la province pour rien faire.
Donc, votre bilan est plutôt mitigé. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, en ce qui concerne toujours la situation sécuritaire, certaines sources révèlent que la double administration, par exemple, continue à fonctionner avec le CNDP. Qu'en est-il exactement?
Oui, nous sommes dans le processus avec le CNDP. Récemment, d'ailleurs, lorsque le chef de l'État était à Goma, il a eu à recevoir les autorités du CNDP. Nous nous réjouissons du fait que nous avons suivi récemment à Kinshasa que le CNDP est en train de s'installer comme parti politique même à Kinshasa. Cela démontre la suffisance que s'il est devenu parti politique comme tel, il ne peut donc plus avoir des administrations parallèles, ni des taxes, sinon chaque parti politique devrait avoir ses taxes dans la zone où il a œuvré. Donc nous pensons que ce processus va devoir nous amener à quelque chose d'ici le 15, c'est dans 72 heures. Nous estimons que les petits problèmes qui se posent au niveau de Moucha, que nous sommes dans les Massissi, au niveau de Kiloliro, au niveau de Kichanga, nous allons y mettre fin, parce que pas plus tard qu'il y a 24 heures, nous étions en réunion avec la direction politique du CNDP pour évoquer ces différentes questions, et que donc nous estimons qu'on est en train de mettre un terme à ce genre de concepts du type administration parallèle CNDP, si du moins le CNDP convient avec nous qu'il est devenu parti politique comme tous les autres, comme les MLC, comme le PPRD, comme les FCD et comme notre parti politique. Donc c'est une question qui nous préoccupe au plus haut point et dans les prochains jours, nous ne manquerons pas à livrer à l'opinion les résultats de ce que nous avons fait avec la direction politique du CNDP ici au niveau de la province.
Mais les groupes armés restent toujours actifs. Hein. L'honorable Mohamed Boulé a parlé des promesses non tenues par rapport aux groupes armés.
Oui, moi je pense que Mohamed Boulle c'est un ancien militaire. Il sait bien que en termes militaires, on ne peut jamais parler de paix totale. Même les pays qui ont recouvert la plus ancienne démocratie ne peuvent pas estimer qu'elles ont la paix totale. Encore moins nous qui venons de la guerre il n'y a pas quelques mois. Donc nous estimons que le profil dans lequel nous sommes nous amène à beaucoup plus développer des stratégies pour mettre un terme à tout ce qui nous a amené à la guerre. On ne doit pas croire que deux mois après la fin des hostilités, après la signature des accords, que nous nous comportions comme tous les pays qui ont commencé il y a longtemps. Donc j'estime que si on nous demande aujourd'hui d'avoir la paix totale, je crois que c'est trop nous demander. Ce que nous demandons plutôt aux uns et aux autres, c'est chacun d'amener sa contribution pour que les petits problèmes que nous pouvons encore rencontrer sur notre parcours puissent rapidement trouver une solution. C'est cela ce que nous demandons à tous les Congolais, au lieu chaque fois d'évoquer des problèmes qui se posent comme étant à la base d'une interrogation presque permanente qui amène les gens à croire qu'il n'y a rien qui avance, alors que lorsqu'on arrive au Nord Kivu, on se rend compte effectivement qu'il y a une amélioration sensible, les gens vont à leurs occupations, les déplacés sont rentrés, maintenant les populations ont commencé à cultiver, il y a la ville de Goma qui est en train d'avoir suffisamment de produits en provenance des massifs et des Rutshuru, et cela constitue des signaux pour nous qui démontrent qu'il y a une amélioration.
Merci, Monsieur le Gouverneur. Kevin Kennedy, abordons l'aspect lié au bilan de Kimia 2 qui a pris fin le 31 décembre. D'après le porte-parole de Kimia 2, les objectifs ont été atteints. Quel est l'avis de la MONUC à ce sujet?
Alors, je crois qu'on est d'accord avec ce bilan parce que quand on voit ce qui a été l'objectif de Kimia 2, c'était finalement de désorganiser le commandement des SPLR, de les chasser des zones qu'ils avaient contrôlées pendant longtemps, de les disperser et de prévenir leur capacité de nuire à la population. Malheureusement, il y a quand même eu des représailles, il y a eu des populations qui ont été ciblées par les SPLR, c'est une chose qui a rendu notre tâche de protection avec les FRDC très difficile, parce qu'effectivement, ce n'est pas une force, les FDLR, ce n'est pas une force conventionnelle qui s'engage avec une force égale, ça cherche des points des plus vulnérables. Alors là, au niveau humanitaire, je crois que nous aurions voulu absolument qu'il y ait moins de dégâts au niveau de la population, et nous avons fait de notre mieux pour protéger ces populations. Mais pour ce qui concerne le bilan des opérations mêmes, je crois que nous sommes d'accord avec les FRDC dans leur évaluation des opérations, qui finalement a pu affaiblir les SDLR, les chasser, mettre fin à leur contrôle sur certaines zones, et maintenant on passe à une autre phase où il faut tenir ce terrain. L'autre chose, c'est que on a fini par rapatrier pas mal de combattants, près de 1500 combattants FDLR ont été rapatriés, avec beaucoup de leurs dépendants, avec beaucoup des gens qui ont été associés avec eux, en fait, ça représente notre moyen d'affaiblir ce groupe. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas rester seulement sur le volet militaire. Il faut aussi qu'il y ait des actions qui soient prises par les autres États, les États dans le monde entier, en fait, pour mettre de la pression sur le leadership des SDLR à l'extérieur du pays. Et je crois que ça a contribué aussi au succès, si vous voulez, de Kimia 2, parce que finalement, on a eu des actions contre quelques-uns de ces leaders.
Mais un petit bilan, ce qui concerne les relations MONUC et FARDC, on a l'impression que c'était des relations du type « je t'aime moi non plus », comme on dit, hein, des relations en dents de scie.
Je ne caractériserai pas le rapport comme ça. Mes collègues militaires, jusqu'au niveau du commandant de la force, sont très contents du niveau de coopération entre les FARDC et la MONUC. Et bon, les deux commandements se comprennent et ils sont engagés actuellement, ils ont été engagés pendant les dernières semaines dans une planification intense intensive pour la phase prochaine. Alors, c'est vrai que dans tout partenariat, dans tout mariage, il y a parfois des difficultés, mais je crois qu'il y a eu une bonne coopération à tous les niveaux entre les FRDC et le commandement des FRDC et le commandement de la MAMUC.
Honorable Mohamed Boulay, un mot, juste un mot sur le bilan des opérations Kinédo.
Le bilan, en ce qui me concerne, je dois dire que je ne suis pas satisfait parce que l'objectif recherché, c'est quoi? C'est de traquer le FDLR. Ce n'est pas de les désorganiser et de les disperser pour qu'ils continuent à changer de terrain et se livrer à ce qu'ils font maintenant. Parce que le FDLR, on ne sent pas s'ils ont la volonté de vouloir la paix et de rentrer chez eux. Vous comprenez, même les négociations tentées sur là à Saint-Égidio, j'y ai pris part. Donc, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsable avec lesquels il faut traiter. Ça, maintenant, si en les désorganisant, en les dispersant, ça n'est pas ça la solution, ils vont se reconstituer. Je pense, les objectifs militaires, c'est de s'attaquer à leur quartier général pour faire beaucoup de dégâts possibles. Parce qu'il faut en arriver là. Ils ne veulent pas déposer les armes. Il faut les contraindre. Il faut les cadrer dans les zones où ils se regroupent, où ils se regrouperaient, de façon à ce qu'il faut cadrer que toutes les voies d'accès possibles leur permettant d'aller chercher des ravitaillements, leur soient bouchées. À ce moment-là, on peut espérer que d'autres seraient contraints à se rendre. C'est ça la finalité. Donc ce n'est pas seulement de les disperser et de les désorganiser, parce qu'on leur donne toujours la chance de pouvoir œuvrer et de tuer davantage.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, de Kimia 2, on passe à Mani Léo. Quelle est la nouveauté finalement dans cette opération?
Moi, je crois effectivement que les opérations à Mani Léo viennent répondre aux inquiétudes de Mohamed Boulay quand il dit qu'on doit les contraindre, on doit les cadrer. C'est effectivement ça les objectifs poursuivis par les opérations à Mani Léo. Parce qu'à travers ces opérations, il est question de devoir dresser une cartographie des zones à risque actuellement, c'est-à-dire d'identifier quelles sont les zones dans lesquelles sont encore localisées les quelques postes de FDLR, pour maintenant organiser des opérations ponctuelles, parce que maintenant c'était des opérations qui constituaient des vastes étendues qui passent de Lubero jusqu'à Walikale, et que vous vous rendez compte que ça devait engager suffisamment des unités, de brigades et de brigades. Mais maintenant, ce sont des opérations localisées, c'est-à-dire après avoir évacué les FDLR des zones qu'ils occupaient hier, on les a quadrillés, on les a contraints à des espaces qui sont bien connus, et c'est à travers les opérations à Mani Léo, c'est-à-dire la paix aujourd'hui, que maintenant on doit essayer un peu de les poursuivre dans leur dernier retranchement pour que les espaces libérés puissent recouvrir totalement l'autorité de l'État, et qu'en installant cette autorité, on se rassure effectivement que derrière les opérations à Mani Léo, il n'y aura plus de possibilité aux FDLR de revenir. Donc je pense que c'est la réponse aux interrogations de l'honorable Mohamed Boulay, que c'est la réponse à cela que les opérations ont été montées conjointement entre la MONUC et les FARDC. Alors moi je pense que par rapport au bilan, s'il doit revenir, on a souvent oublié l'aspect important, c'est l'aspect diplomatique. Vous savez, entre le Rwanda et la RDC, il y avait un climat de méfiance parce qu'il y avait des accusations diverses. Le Rwanda accusait la RDC de soutenir les FDLR, et ça faisait depuis longtemps que nos relations étaient très très tendues, mais à partir du moment où ces opérations ont été montées, vous avez tout vu que les relations se sont éclaircies entre nos deux pays, il y a eu reprise des relations diplomatiques et des ambassadeurs nommés à Kigali et à Kinshasa. Donc, à travers ces opérations, on est en train de remettre ce climat de confiance qui avait manqué depuis longtemps à la suite des accusations qui pesaient sur l'un ou l'autre pays, c'est-à-dire la RDC ou le Rwanda.
Kevin Kennedy, finalement, pourquoi une opération à Mani Léo si Kimia 2 a atteint ses objectifs?
Bon, c'est-à-dire qu'on procède par phase. Et pour répondre à ce qu'a dit l'honorable, c'est effectivement ça. Comme l'a dit le gouverneur Paluku, cette prochaine phase serait nécessaire pour tenir les zones, pour protéger les populations, mais aussi pour mener des opérations plutôt ciblées des interventions contre les SDR, justement pour les prévenir de se regrouper et aussi pour détruire ou pour désorganiser leurs possibilités de commandement. C'est justement ça.
Mais c'est différent de Kinéa 2.
Oui, alors c'est-à-dire que Kinéa 2, c'était une opération, si vous voulez, plus généralisée, qui avait des buts différents, qui avait des moyens d'opération différents. Et il y a eu une directive opérationnelle conjointe différente entre les FRDC et la MONUC. Alors, on a passé à une autre phase, comme l'a dit le gouverneur, les deux forces, la MONUC et les FRDC, ont travaillé sur une cartographie des vulnérabilités et des zones qui sont les plus menacées pour pouvoir mieux cibler les opérations et pour mieux, si vous voulez, s'attaquer aux points forts et aux points qui restent des éléments restants des états FDR.
Kinéa 2, Kevin Kennedy, s'étend sur 3 mois. À quel moment le gouvernement et la MONUC pourraient-ils proclamer la victoire contre la menace FDR?
Justement, vous avez dit, c'était pas qu'il y a deux pour 3 mois, c'est Amanileo.
Ah, pardon, Amanileo.
Oui, c'est prévu pour 3 mois, renouvelable. Mais le fait est, je crois que c'est intéressant parce que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1906, a demandé au gouvernement congolais et rwandais de travailler ensemble pour bien définir à quel moment on aurait réduit au maximum cette menace des SDLR qui est une des principales causes de conflits dans la région. Alors, c'est d'une certaine façon, c'est aux pays les plus concernés à définir à quel moment on a gagné la victoire. Alors, mais je crois que pour nous, si vous voulez, le test absolu sera la protection des populations. Au moment où les SDLR ne peuvent plus nuire aux populations et où on n'a pas la possibilité d'une résurgence des SDLR dans les zones qui ont été contrôlées par eux, et en plus, on a l'établissement de l'autorité des États. Parce que, enfin, c'est le but, à part la protection des civils, le but de ces opérations, finalement, c'est d'aider au gouvernement congolais et aux institutions légitimes de s'établir dans ces zones et de rétablir l'autorité de l'État qui est essentielle pour la sécurité de tout Congolais.
Et avant de donner la parole à l'honorable Boulet, quelle pourrait être la spécificité du soutien de la MONUC dans Amanileo?
Bon, en effet, on continue avec les genres de soutien qu'on a fourni pendant qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'on fournit une aide en ration, c'est-à-dire en nourriture, en carburant, en transport et en évacuation sanitaire. Alors, tout ce genre de soutien. Mais le caractère du soutien a changé. Selon une demande des FRDC, la MONUC ne fournira pas des rations pour tous les éléments FRDC qui sont engagés dans l'opération. On a fourni jusqu'à présent des rations pour quelques 16 000 soldats des FRDC, mais à la demande des FRDC, nous fournirons des rations de combat aux unités qui sont engagées directement dans les opérations ciblées, qui sont planifiées conjointement par les FRDC et la MONUC. Et tout notre soutien sera basé sur ces éléments, c'est-à-dire la planification conjointe pour les opérations à courte durée ou à durée spécifique sur des cibles bien définies qui ont été agréées entre les FRDC et la MONUC. Alors c'est beaucoup plus ciblé et focalisé comme soutien.
Honorable Mohamed Boulé, il y a des auditeurs qui sont très nombreux à nous écrire, notamment Tchétché Matoto de Lubumbashi au Katanga qui dit « Pourquoi changer les noms des opérations militaires au Kivu alors que c'est la même réalité ?» Jean-Yves Alimassi de Baraka, de Fizi Baraka au Sud Kivu, le passage de l'opération Kinéa 2 à Amanileo ne résoudra pas des problèmes sécuritaires au Sud et au Nord Kivu, du fait que ceux qui sont à la base même de cette situation sont certains Congolais télécommandés par certains sujets étrangers.
Merci beaucoup. C'est du droit de ceux qui organisent les opérations pour pouvoir les codifier comme ils veulent. Que ce soit Kinéa 2 ou autre appellation, ça n'a pas d'importance. Nous avons connu aussi d'autres opérations ici, turquoise et autre chose. Ça, je crois que En ce qui concerne l'autre partie de la question, les citoyens qui s'interrogent pour dire que ça n'amènera à rien, moi je pense que la première des choses, nous devons faire la part des choses. Nous avons affaire à des éléments FDLR qui mènent une guerre non conventionnelle. Nous avons des troupes aguerries de la MONUC qui ont la capacité d'aider les forces armées de la République démocratique du Congo en termes de renseignement. C'est très important, il faudrait qu'on sache. Je suis convaincu que la communauté internationale, à travers la MONUC, peut donner des renseignements, du renseignement précis concernant les zones de regroupement ou les zones de refuge par les moyens très sophistiqués, je peux dire, même des photographies aériennes. On peut les obtenir avec précision et concision, et en ce moment-là, ça mettrait à l'aise l'état-major, les quartiers généraux, de coordonner une opération. Étant entendu que la MONUC a la capacité aussi de donner l'appui fait aérien, ce qui fait défaut pour nos forces armées. En ce moment-là, on peut estimer d'atteindre les objectifs. Parce que si déjà demain, nous avons passé 10 mois, les résultats, oui, on a dispersé, oui, on a désorganisé, ce n'est pas encore suffisant. Il faudrait aller au-delà. Donc, moi, je pense que l'élément essentiel, c'est le renseignement. Et sur cela, en faisant une opération conjointe avec la MONUC, moi, je suis convaincu que la MONUC a la capacité de mettre à disposition les renseignements qu'il faut pour pouvoir permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de mener à bien ces opérations.
Donc, vous pensez que Kimia 2 va améliorer les choses?
Améliorer les choses, il faudrait l'approche. Parce que pour monter une opération, il faut partir d'une situation donnée, les rapports de force. Et en plus de ça, qu'est-ce que nous voulons maintenant que l'ennemi, parce que ce que nous faisons ici, nous faisons, ce sont des sources ouvertes. Vous pensez que FDLR n'est pas en train de suivre? Vous leur dites que dans 3 mois, nous allons mettre fin à ça et tout ça, ainsi de suite, dans 10 mois après. Ils vont prendre d'autres méthodes pour se disperser, pour se diluer dans la population. Vous savez qu'il y a d'autres qui ont créé des familles ici et là, en se mariant ici et là. Et alors là, je pense que ça va compliquer l'équation. Il faut la confidentialité des opérations, il faut le secret des opérations, c'est très important. Il ne faudrait pas faire donc de l'euphorie à tout moment. Non, nous avons réalisé 90%, mais je pense qu'il faudrait préparer minutieusement et dans la discrétion la plus totale de telles opérations, parce que si on doit tenir compte des délais impartis, moi je ne suis pas sûr que ce délai-là sera suffisant, parce que les autres prendront aussi la disposition.
Voilà, je crois que les auditeurs l'ont compris, décidément, Kimia 2 me tient à la gorge, mais il s'agit de Amani Léo. Honorable Boulé, répondez à la question de Robert de Boutembo, qui dit qui fournit en armes et munitions les FDLR se trouvant actuellement loin des frontières congolaises. Tant que cette question n'aura pas trouvé de réponse, l'opération Amani Léo restera toujours à maniquer, c'est-à-dire la paix demain, et la sécurité des civils restera toujours menacée.
Merci beaucoup. Vous savez que lorsqu'en 1994, ces éléments ont traversé, donc ils avaient un certain armement très important. Et maintenant, ce n'est un secret pour personne. Ici, en Afrique, il y a certains pays africains qui fabriquent des armes. Et je crois que l'acquisition, l'achat par-ci, par-là, de ces armes n'est pas tellement soumis à des normes qui puissent permettre un contrôle efficace. Dès lors que ces éléments FDLR occupent des zones minières, ils exploitent, qu'est-ce qu'ils font? Il faut les toquer avec ça. Je pense que certains rapports n'ont pas manqué d'évoquer cela. Je me réserve parce que je n'ai pas d'autres informations précises. C'est cela le problème. Tout autour de nous, il y a des pays qui fabriquent des armes, de petits calibres. Et de munitions.
Province du Nord et Sud Kivu, début dès ce mois de janvier de l'opération Amani Léo qui remplace Kimia 2 dans la SAC des FDLR et des groupes armés réfractaires à l'intégration. Quelle est la situation sécuritaire dans les deux Kivu? Quel pourrait être l'apport de l'opération Amani Léo dans la protection des civils? 3 invités participent à cet échange. Julien Paloukou, gouverneur de la province du Nord Kivu. Mohamed Boulé, député national MLC, ancien vice-ministre de la Défense et général à la retraite. Kevin Kennedy, directeur de l'information publique de la MONUC. Cette émission vous intéresse et vous voulez réagir, voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quel pourrait être l'apport de l'opération Amani Leo dans la protection des civils? C'est la deuxième partie de cette émission. François Grignon, directeur Afrique de International Crisis Group, pense que l'approche militaire doit être accompagnée de l'approche politique pour la réussite de cette nouvelle opération. Il demande au gouvernement congolais de beaucoup plus mettre l'accent sur la protection de la population civile en sanctionnant les officiers FRDC qui s'adonnent au pillage et au viol des populations. On écoute François Grignon au téléphone de Kéline Couté.
À partir du moment où on a une approche qui est uniquement en terre, les opérations ne sont pas soutenues par une action politique complémentaire tant au niveau régional qu'au niveau international, en coopération avec les partenaires nécessaires, les Nations Unies, mais aussi le Rwanda, je pense qu'il y a toujours un rôle à jouer pour aider au succès de cette politique, mais on va avoir du mal à aboutir à des résultats convaincants. Le gouvernement doit avoir, je dirais, en priorité, c'est sa responsabilité, le sort des populations civiles comme souci premier. Donc, comment peut-on faire? Je pense qu'au niveau de la planification avec les Nations Unies, il faut tout d'abord que les FARDC eux-mêmes ne soient pas, je dirais, les premiers bourreaux des populations civiles au Congo. Et donc, tous ceux qui ont été responsables de crimes l'année dernière, notamment de viols, et les officiers qui ont couvert ces crimes, doivent en assumer les conséquences. Il est temps aujourd'hui, par exemple, d'appliquer la politique de tolérance zéro qu'on a vue dans certaines administrations appliquées par le gouvernement à l'armée.
Veuillez nous excuser pour la qualité de cet élément qui n'était pas très clair. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, à entendre le porte-parole des opérations à Manileo Sud Kivu, pour lui, ces opérations seront plus défensives qu'offensives, tandis que le porte-parole des mêmes opérations dans le Nord Kivu semble dire l'inverse. Quelle est finalement l'approche choisie pour protéger les civils?
Oui, l'approche est claire. Il ne nous appartient pas ici de livrer, comme a dit Mohamed Bou, les secrets militaires au niveau de la radio Papi. Mais comme vous le savez, nous nous disons, le premier objectif, la protection des civils. C'est-à-dire, à travers les opérations Manileo, on doit se rassurer que toutes les zones qui ont été libérées ne peuvent plus être réoccupées par des FDLR. Et c'est la raison pour laquelle les opérations de Manileo sont pointues en direction des zones stratégiques, des zones cibles, qui sont actuellement occupées par des troupes résiduelles. Et donc, cette façon de faire va permettre à ce que les espaces qui sont libérés se voient avec uniquement la police qui revient, avec l'administration qui revient, les militaires ne devront plus occuper les espaces pour évacuer la crainte de certaines personnes qui croiraient qu'ils se livreraient encore à des exactions en direction des populations civiles. Donc c'est une vaste opération qui a comme objectif de devoir libérer, occuper les zones qui n'ont été par les opérations qui m'aidaient, d'empêcher que les zones qui ont été occupées ne puissent plus être occupées par ces forces de FDLR, et particulièrement les zones minières, parce que vous savez que c'est de là que s'abrévaient toutes ces zones de FDLR. Si on réussit par exemple à libérer tout Walikale des tentatives des FDLR, ça va nous permettre de pouvoir briser leur capacité de survie. Et comme aujourd'hui d'ailleurs, nous pouvons le témoigner que depuis que nous avons libéré les zones minières, maintenant au niveau des recettes de la province, nous avons réalisé presque un taux de participation de 20% des recettes qui jadis ne venaient pas dans la caisse du trésor.
Monsieur le gouverneur,
les zones minières sont en train de financer actuellement à peu près à 20% du budget de la province, ce qui signifie qu'il y a une maîtrise effective des données et un empêchement aux FDLR de revenir dans les zones qui constituaient hier leur proie à laquelle ils s'abrégeaient.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, François Grignon, que nous venions de suivre, a proposé une approche politique au niveau régional pour résoudre la question FDLR, mais apparemment, on a comme l'impression qu'à part le Rwanda, les autres pays de la sous-région ne sont pas très impliqués.
Oui, l'approche politique, notre gouvernement l'a définie par rapport aux forces nationales ou locales, c'est-à-dire les groupes armés. Mais l'approche politique ne concerne pas les forces étrangères, du moins à ce que nous sachons actuellement. Il n'est prévu nulle part où il doit être organisé un espace où on doit se parler avec les FDLR, parce que nous leur avons donné le temps de devoir rentrer chez eux paisiblement. Ça fait 15 ans qu'il y a des appels qui leur sont lancés pour devoir rentrer chez eux. Ils ne le veulent pas. Si aujourd'hui il y a l'option militaire qui a été prise, c'est parce qu'effectivement, les propositions qui ont été faites avant n'ont pas abouti. Donc, à ce que je sache, il n'y a pas, au stade actuel, une approche politique par rapport à la question FDLR. L'approche politique concerne uniquement les forces nationales ou les forces locales ou les groupes armés locaux.
Kevin Kennedy, peut-on appliquer l'approche politique au FDLR?
Quand vous dites l'approche politique, si vous parlez d'un dialogue, si vous parlez de négociations, en quelque sorte, une solution politique aux FDLR, je crois que le Conseil de sécurité s'est prononcé là-dessus à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays au monde qui reconnaît une légitimité quelconque de la part des FDLR. C'est un groupe qui n'a pas de légitimité et avec qui on ne peut pas traiter en tant que parti politique ou en tant que interlocuteur politique. J'élargirai un peu l'idée de François Grillon. Il ne s'agit pas seulement d'une approche politique dans la région. Là, bien sûr, il y a les rapports entre le Rwanda et le Congo qui sont les rapports les plus importants et l'approche politique, si vous voulez, entre eux, de leur politique de traiter la question des FDLR. Mais je dirais plutôt au niveau global. Et c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont de l'influence sur les leaders FDLR qui sont à l'étranger, qui profitent de certains réseaux commerciaux ou de certains réseaux illicites et qui donnent un appui, que ce soit stratégique, que ce soit moral, que ce soit politique, au noyau dur des FDLR sur le terrain. Il faut casser ce lien. Je crois que, comme l'honorable avait déjà dit, il y a dans les rapports qui ont paru, notamment du groupe des experts des Nations Unies au mois de novembre, qui a bien exploré tous ces éléments, tous ces réseaux commerciaux, légitimes et illégitimes d'ailleurs, qui donnent un soutien aux FDLR, ou en forme de financement, ou en forme d'armes, ou en forme de soutien moral.
Honorable Mohamed Boulay, quelles pourraient être vos propositions en ce qui concerne pour réduire les dégâts collatéraux dans Amanileo?
Dans Amanileo, vous savez que d'abord les sites qui vous, les nord qui vous, c'est 59 537 km², ce n'est pas une mince affaire, avec un terrain très accidenté, les sites qui vous aussi. Et alors tout à l'heure, les gouverneurs ont parlé de Walikale. Vous savez que Walikale, c'est une zone bien occupé par les FDLR parce qu'ils y tiraient certainement beaucoup de ressources là-bas. Mais ce territoire a 23 475 km². Mais lorsque vous allez, par exemple, dans le sud Kivu, le territoire de Walungu n'a que 1 800 km². Tout cela est parce que la population qui est là, à quel moment précis est-ce qu'on va vider la population pour ne pas se voir se trouver entre les deux feux? C'est très difficile. Parce que d'abord, leurs moyens de survie et tout ça, les secrets des opérations, je pense que c'est assez difficile, assez délicat. Mais tout ça, on voit, je plains les gouverneurs, dans le sens que nous n'avons pas la politique de jouer le jeu pour mettre fin à cela. Si deux fois vous êtes à Goma, je suis ahuri d'avoir constaté ça. On voit l'aéroport et l'aérodrome d'à côté. Chaque matin, les avions décollent. Ils passent par-dessus Goma. Ils vont en territoire congolais. Vous pensez qu'ils vont où? Justement, au moment où le FDLR était là. C'est ça le problème. Ça, c'est visible. Mais parce que nous n'avons pas la capacité de faire la couverture aérienne, parce que l'armée, c'est ça. Il faut disposer d'une force aérienne assez efficace pour interdire tout passage et toute fréquentation de d'autres avions, d'autres aéronefs. C'est cela le problème. Il faut commencer par verrouiller ces voies d'accès qui permettent aux vies aussi de tout le monde à ce que l'exploitation continue d'une manière ou d'autre. Maintenant, ça que par les pistes et tout ça, les gens qu'on prend pris en otage et tout ça, vous pensez, ils sont comme porteurs, au fait. Donc c'est bien dommage. Parce que maintenant, là, est-ce que, avec les conditions du moment, et moi je dis, l'élément essentiel, c'est le renseignement. Ce renseignement, ce n'est pas positionné les militaires, tous les 10 mètres et tout ça, mais il faut faire appel à des moyens techniques, performants, qui puissent nous permettre de savoir que dans cette zone-là, et puis tout de suite, on organise quelque chose, on y va, on traque.
Et les populations dans tout ça?
Et les populations, c'est ça justement. C'est assez délicat, parce que des fois, ces gens, ils sont très malins, ils vont en même temps, lorsqu'ils savent qu'ils sont traqués, qu'est-ce qu'ils font?
ils vont donc essayer de voir dans la population. C'est très difficile.
Kevin Kennedy, décidément, la protection des populations est très délicate. Hein?
Oui, effectivement, parce que en effet, si on est des STLR, on va voir que, en effet, la population civile, c'est le point le plus faible, le point le plus vulnérable. Alors, ils vont s'attaquer à cette population. Alors, c'est notre tâche à soutenir les FRDC, à identifier les zones qui sont vulnérables et d'aider à tenir ce terrain et de protéger les populations. En fait, il y a une entente absolue entre les commandements FRDC et la MONUC que le succès de cet effort dépendra de la protection efficace et continue offerte à la population. Ça fait partie intégrante de cet ordre de cet ordre conjoint entre les deux. Mais si je peux ajouter un petit mot sur l'enseignement, l'honorable comme ancien militaire, il sait bien de quoi il parle. Et en fait, le renseignement, c'est un point que la MONUC a soulevé à plusieurs reprises, que les Nations Unies a soulevé avec les pays membres. Et le renseignement, la capacité de renseignement, est un des éléments que le Conseil de sécurité avait autorisé à la MONUC par la résolution 1843 l'année dernière, et que la MONUC n'a pas reçu. Il n'y a pas de pays qui a offert cette capacité ou technique ou de renseignement qui permettrait de mieux focaliser sur des groupes des SDLR. Alors ça rend la tâche beaucoup plus difficile.
Mais on a l'impression, Kevin Kennedy, que la coordination des opérations entre la MONUC et les FRDC ne marche que sur papier.
Je crois pas que c'est juste. Je crois que il y a beaucoup de difficultés, c'est clair, parce que les FRDC, comme nous savons tous, c'est une armée toujours en reconstruction, qui manque des moyens, et la MONUC n'a pas tous les moyens nécessaires. Si on a suivi ce que l'honorable vient de dire à propos du terrain et à propos de l'étendue du territoire à couvrir, ce n'est pas évident. Mais ce n'est pas une manque de coordination, mais c'est souvent un manque de moyens de communication, de logistique de la part des FRDC surtout. Et si je peux dire un tout petit mot sur le soutien de la MONUC.
Alors, c'est votre conclusion.
Ok, ça sera ma conclusion. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la conditionnalité du soutien de la MONUC aux FRDC. La conditionnalité, le Conseil de sécurité, dans sa résolution, a exigé que la MONUC assure que la planification conjointe a eu lieu et que les droits humanitaires, les droits de l'homme et les droits internationaux des réfugiés sera respecté dans les opérations qui reçoivent le soutien de la MONUC. Entre les FRDC et le commandement de la MONUC, il y a une entente très très proche sur ce point et les mesures seront prises au cours d'Amanileo d'assurer que cette conditionnalité est respectée.
Merci Kevin Kennedy, je rappelle que vous êtes directeur de l'information publique de la MONUC. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces populations du Nord Kivu qui attendent quelque chose d'Amanileo?
Moi je pense que je dois rappeler le principe d'une évaluation. Dans une évaluation, on doit jeter un regard rétrospectif sur là où on vient. C'est pourquoi j'ai toujours évoqué trois questions. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe au Nord Kivu, on doit se dire d'où venons-nous, première question. Deuxième question, où sommes-nous? Et troisième question, où allons-nous? Nous savons que la zone du Nord Kivu était trouble. Et les opérations qu'il y a d'eux nous ont amené à une situation de constat actuel qui permet que nous détruisions les sanctuaires des FDLR. Et c'est maintenant à travers les opérations à Manileo que nous devons maintenant définir là où nous allons par rapport au reste de poches. Ils sont localisés ça et là. Moi, je pense que c'est ça que nous devons comprendre. Elle n'est pas toujours considérée qu'il n'y a rien qui a été fait, alors que les efforts et du président de la République et de toute l'armée congolaise
ont
suffi pour permettre aux milliers de déplacés de rentrer chez eux.
Merci, monsieur le gouverneur. Honorable Mohamed Boulé, en 15 secondes, votre conclusion.
Oui, en 15 secondes, je voudrais qu'il y ait nettement un accent particulier en termes de renseignements pour pouvoir mener à bien et aussi fixer de manière chronologique les objectifs à atteindre de manière prioritaire et veiller à ce que les militaires qui seront commis à ces opérations-là qu'ils soient bien disciplinés parce que le commandant, il dispose des hommes en armes et aussi d'un côté, il doit veiller à la discipline.
Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation a été signée Kelly Kouté, assisté de Samuel Kachak, la mise en onde de Guy Manzangou, sous la coordination de Martin Sebujangwe. À demain, même chaîne et même heure.